Les enquêtes du commissaire Lafiloche. Aujourd'hui, le meurtre de la rue des Abbesses. Une pièce radiophonique de Dominique Bertschy. Avec Claude Prélot, Marco Poli, Simone Emery, Gilbert Rigotti, Pierre Bassoli, Dominique Hulcu, Olivier Bravon, Gloria Jiménez, Dominique Bertschy, Bernard Bachton, Nicolas Levet, Raoul Yersin, Gaston Lozer, Martine Degli-Agosti. Mise en onde, Nicolas Levet. Prise de son, Henri Scherer. Montage, Pierre Bassoli.
Nom de Dieu, ce qui pleut. Quelle vache de temps. Ça, c'est une trompe. Un cyclope. Faut que c'est le diable qui pompe et le bon Dieu qui bistre qui peut. Sûr que je vais attraper du mal. Demain, faudra que j'aille à l'hospice. Alors bon, là, le bon Dieu qui repisse. Hé là-haut, espèce d'animal. Pisse donc pas tant, ça me tombe sur le nase. Fais donc attention, vieux sabot. Nom de Dieu. Il y a du monde dans le pot quand tu prends Paris pour ton bal.
Viens donc par ici, hé, maraud. T'en fais les manières. Tu parles du bon Dieu, tu fais encore plus de boue qu'en pluie. Allez, viens boire un verre chez Sébasto. Viens donc te chauffer un peu. On se fait gel dans ce pays.
Laisse tomber la marquise, j'ai pas le rond. Bon, envie de jeter, hein?
T'as pas le rond. Ça, c'est une excuse. Allez, viens. Même les chiens restent pas dehors par ce temps-là. Et traîne pas tout seul dans la rue. Paraît qu'il y a des mauvais gens qui rôdent. Il se passe drôle de choses dans ce pays. Même qu'à l'hôtel Sébasto, dis que t'en étais.
Viens donc la paix, la marquise. T'entendais?
Par ce temps de cochon? Il n'y a pas de risque.
Chut, la marquise. On dégage. À la rousse qui se pointe, vite, par là.
Élevage de thon, putain de métier. Amène-toi, Bigorneau, là. Viens donc te mettre à l'abri. Allez, t'en mets du temps.
Nom de Dieu, putain de métier. J'arrive, patron.
Comme par magie, le vieux clochard et sa comparse ont disparu à l'angle de la rue, avalés par la nuit, les rafales de vent et la pluie. Les deux policiers n'ont rien remarqué. Pressés qu'ils sont de se trouver un abri près du lieu du crime. Trempés comme une soupe, ils se sont réfugiés sous un porche. La rue est déserte. Un réverbère leur offre une clarté bienvenue pour rédiger leur rapport. Et quand au petit matin les journaux dénonceront le crime de la rue des Abbesses, les gens seront bien rassurés de lire en titre « Le commissaire Lafiloche et l'inspecteur Bigorneau mènent l'enquête ».
Passe-moi de quoi écrire. Vite, il n'y a pas de temps à perdre.
Tout de suite, patron. Voilà.
Tiens, Bigorneau, prends le rifleur. Mais tiens le droit, que je te dis. Protège-moi, nom de Dieu, ça me pisse une naze. Bon, ce rapport. Montmartre, 3 février 1900. Le corps d'une jeune femme a été retrouvé tôt ce matin. Il était 3 heures environ. À l'angle de la rue Le Pic et de la rue des Abbesses. Il gisait sur les marches de l'escalier qui descend vers la cave de la mère Roussel, blanchisseuse de son état.
Même qu'on l'appelle la grosse Fernande, elle a des gigots qu'elle balance en veux-tu, en voilà. La grosse Fernande.
Marie Roussel, c'est son nom, Bigorneau. Fais gaffe, ça dégouline. Déjà que j'y vois peau de zébi. Bon, je continue. La victime avait le ventre transpercé d'un coup de poignard. Pas de témoin connu. L'assassin n'a pas raté son coup, hein. C'était pas un bleu, le salaud.
Pardi.
Pauvre gosse. Un vrai petit ange avec des yeux grands ouverts, comme étonné de la méchanceté du monde.
Un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Ça sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent.
Pas sûr qu'elle connaissait son assassin.
Ça, c'est vite dit.
Bon, je continue. Pas de témoin connu, point.
Ah, sans blague, ça c'est pas nouveau. La loi du silence, c'est la seule qu'on respecte dans ce pays. C'est pas comme à Genève, chez mon cousin Fernand.
Pardi, dans ton bled là-bas, chez ton cousin, s'il y a pas de voyous, elle doit se la couler douce, la crime. C'est le paradis, ton Genève.
Le paradis des protestants, patron. Il n'y aurait pas de place pour vous.
Eh oui, il a bien raison de se plaindre, l'inspecteur Bigorneau. Pas facile d'exercer le métier de policier dans ce quartier de Montmartre. Dans les rues sombres de la butte, règne la loi des marlots et des assassins. Les Roussins, entendez les policiers, ont bien du mal à s'imposer et à protéger les filles qui travaillent dans la rue pour le compte de leur mac.
Si on rentrait au collège pour terminer ce rapport, ça me pisse sur le naze.
Tu vas attraper la mort, mon pauvre Bigorneau. Regarde là-bas sous le porche. On dirait qu'il y a du monde.
Ah, sûrement pas du beau. Il est sinistre, cet endroit. C'est le diable qui règne en ces lieux.
Allez, rentrons. Tu vois, Bigorneau, moi je crois que la petite macabre, elle était toute neuve à Montmartre. Peut-être ben même qu'elle venait de la cambrousse.
Bah, rien à voir avec les gigolettes du quartier, les petites femmes de Pigalle, expertes en abattage, et dans l'art de la fauche. Et moi j'aime bien les petites femmes de Paris. J'ai même un faible pour celles qui trottinent sur la butte.
Avec elles, guerre à la bourse des Michets, en moins de deux, ils sont nus comme des vers.
Et nous, les argousins, on arrive toujours trop tard. C'est qu'elles sont expertes, les maraudes.
Ça suffit, Bigorneau. Si on t'entendait, on en est tout de même, hein? Alors, ne reste pas planté là. Va plutôt me chercher Julot et envoie le mouchardé à l'hôtel Sébasto. Il y a quelque chose de louche qui se trame dans ce caboulot. Faudrait tout de même savoir si la petite morte y prenait ses quartiers.
Bon, j'y vais, patron. J'y vais.
Le commissaire Lafiloche était connu comme le loup blanc dans le quartier, considéré par tous comme un as de la crime. Et pourtant, il ne paye pas de mine, le commissaire. Pas très haut sur pattes, le front dégarni, le ventre gonflé par l'excès de gourmandise. Seuls ses yeux perçants trahissent sa perspicacité. Ce Condé, pour emprunter le langage des petites gens, connaît toutes les ficelles à force de taper la semelle sur les trottoirs de la butte. Homme à la réputation sans tache, fin limier chargé de l'affaire du meurtre de la demoiselle, il est craint des filous, dont certains sont allés par ses soins rendre visite à la veuve, car en ce temps-là, à Paris, on guillotinait encore.
T'as entendu la mémoire ?
Pardi, avec tout ce qu'on escourt dans la rue, quel genre de Barnum, la marquise ?
Je sais pas, Brisset. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. La Filoche met son nez partout ces temps-ci. Bigorneau fait son enquête à l'hôtel Sébasto.
Bof, le macabre, tout le monde s'en fout.
Mais c'était une gosse. Tu t'en fous pas, toi, la mémoire, hein?
Pardi. Tu veux boire un coup?
Non, pas soif. Fais gaffe de ne pas te noyer dans ton jungle.
T'occupe, la marquise.
Allez, vieux Clojo, tu peux me le dire à moi. C'est qui a fait le coup? Il y a des seuses qui dictiètent.
Alors, je bois à leur santé et aussi à la tienne et à la santé des morts.
Crimes crapuleux et les règlements de compte ne manquaient pas en ce temps-là. Les braves gens fuyaient habituellement le malheur des autres, peut-être pour éviter qu'ils ne leur tombent dessus. Allez savoir. Mais il allait tout faire, le commissaire Lafiloche, pour coincer l'assassin et le faire passer en justice. Pour cela, il lui fallait infiltrer le milieu. Son indique, le jeune Jules, ferait son affaire. Fraîchement arrivé de Lyon, il était habile et avait depuis peu ses entrées à l'hôtel Sébasto. Un café sordide, un ramassis de truands et d'assassins.
Nom de Dieu, quelle vache de temps!
Pour suivre les ordres du commissaire Lafiloche, l'inspecteur Bigorneau, qui jurait mieux que personne comme on le fait à Paname, remonte le col de son manteau, enfonce son chapeau pour se protéger les oreilles et abandonne à regret le parapluie à son patron.
Vache de métier.
Ça fait un petit quart d'heure qu'il enfile à grands pas les ruelles de la butte Montmartre. Il prend des raccourcis et se presse un peu trop, manque de tomber.
Nom de Dieu!
C'est qu'elle glisse sacrément les marches des escaliers de la butte. Un temps de chien qui n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Ce 4 février 1900, l'aube n'est pas encore levée sur l'hôtel Sébasto. Il fait sombre dans les ruelles détrempées. Mais Bigorneau connaît le chemin. En un rien de temps, il repère le bobinard discret, qui ne se distingue en rien des autres maisons de la rue, serrées les unes contre les autres. Seule une faible lanterne indique son emplacement et éclaire « Hôtel Sébasto ». Une enseigne tape à l'œil, esquissée sans doute par un barbouillon sans le sou, pour régler sa note. Déjà Sébasto, le patron, s'affaire derrière son comptoir. L'œil fatigué, il prépare la salle pour l'ouverture.
C'est fermé.
Ouvrez, police.
Je suis en règle, vous pouvez vérifier.
T'étais où cette nuit, disons, vers deux plombes du mat?
Au pieu.
Avec ta régulière?
Adèle? Non, elle faisait la fermeture du café. Mais attendez, c'est quoi ces questions?
Un crime à deux pas d'ici, rue des Abbesses. Alors, Sébasto, t'as un alibi pour cette nuit? Réfléchis. Y a peut-être quelqu'un qui t'a vu te pioter, un client, Julie la serveuse?
Julie? Non, elle était montée avec un client. Adèle, sûrement.
Je vérifierai.
Un café?
Pas de refus.
Vous prenez du sucre, inspecteur?
Merci. Dis-moi un peu quel client y avait dans ton foutu caboulot hier soir, disons des 18 plombes.
Que des honnêtes gens, des clients?
Des noms.
Oh. Petit Louis qui était dans le sirop, Richard Lenoir, Lejeune, Polite, Nini, un Lyonnais qu'on appelle Julot. Ah oui, la marquise est passée un moment avec une de ses copines. Son nom c'est Mimi, je crois. Et puis le livreur de chez Crapote.
Place Blanche?
Place Blanche.
C'est tout?
Des gens de passage, un groupe d'ouvriers pour l'apéro, quelques branques pour les cartes et aussi deux, trois michetons assez rupins.
Rien que ça. Des rupins et des filles.
Quelques arpenteuses sont passées boire un coup pour se réchauffer. Ils faisaient un temps de chien.
Ah, je vois. Rien d'autre ?
Non. Au fait, inspecteur, on la connaît, la petite macabre ?
La petite macabre ? Ah, je vois que les nouvelles vont vite. T'as l'air bien renseigné, Sébasto. Tu la connais peut-être, toi, la petite môme qui s'est faite suriner à deux pas d'ici ?
Et pas si vite, inspecteur. Les nouvelles vont vite quand les argousins font leur enquête à grands coups de jactance. C'est la marquise qui vous a entendu, vous, le commissaire Lafiloche.
Tiens donc, la marquise. Ah bon, s'il y a du nouveau, si un de tes clients est à la cloche, tu sais où me trouver.
À vos souhaits.
Merci. Et merci pour le café.
À travailler déjà pour vivre. Et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent.
18h, l'heure de l'apéro. L'inspecteur Bigorneau a l'intention de prendre un verre à l'hôtel Sébasto. Une occasion rêvée de surprendre Jules Tercier en pleine action. Jules Tercier dit « Julot », l'indique du commissaire Lafiloche. Entre-temps, il n'a pas perdu son temps, l'inspecteur. Il s'est fait le plaisir de coincer la marquise à l'angle de la rue Saint-Vincent. La vieille prostituée, aux oreilles indiscrètes et à la langue bien pendue, avait été relâchée après 2 heures d'interrogatoire dans le bureau du commissaire. Il avait bien fallu admettre qu'elle ne savait pas grand-chose. Il l'avait tout de même convoquée le lendemain à 11 heures pour identifier le corps de la demoiselle. On ne sait jamais. L'inspecteur Bigorneau approche de l'hôtel Sébasto. Il hésite à peine avant de s'engouffrer dans le cabaret, pressé et content de se mettre à l'abri et de s'enfiler un petit remontant.
Bonsoir. Une audaf.
C'est la tournée du patron. Tiens, v'là la rousse. Ça fait une plombe, inspecteur Bigorneau. Quel sale temps, pas vrai? Julie, apporte-nous une mousse bien fraîche. Et une pour l'inspecteur.
Hein, pour moi, ça sera une audace, Julie.
À vos ordres, inspecteur. Encore en service ce soir?
Oh, ça caille. Il fait un froid de canard dehors.
Enfin, te v'là, c'est pas trop tôt.
Oh, t'échauffe pas, j'ai fait le marché. Ça prend du temps, l'air de rien.
Faut pas te bousculer, la mère, pas vrai. Et tant pis pour les clients si quand ils arrivent, c'est encore le boxon par ici.
Si on peut même pas faire la causette avec les commères du quartier, des futures clientes. N'empêche, il y a eu un crime à 2 pas d'ici.
Ouais, v'là autre chose, encore des histoires à dormir debout.
Pas du tout, rien que du sérieux.
Alors, il y a eu un sérieux près d'ici.
On dirait que ça t'intéresse tout à coup. Une souris travaillée dans le rouge. On l'a retrouvée ce matin, rue des Abbesses.
Tu lis les journaux? C'est nouveau, ça.
Et alors? Tiens, tiens, voilà l'inspecteur Bigorneau qui mène son enquête. Il perd pas de temps, celui-là.
C'est ce qui vous ramène par ici, inspecteur?
Pardi.
Bon, on va pas se laisser casser le moral par la crime et ses petites affaires. Aujourd'hui, chez Sébasto, on trinque.
Messieurs, un banc pour le patron, et que ça pète.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ah, à ta santé, Sébasto. Et bon anniversaire.
À travailler déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules,
Entre-temps, l'inspecteur est allé s'accouder au bar tandis que la fête reprend son cours, laissant à la rue toutes ses misères. Adèle s'affaire, mal à l'aise. Elle se méfie des roussins.
Alors, madame Adèle, ça marche les affaires? Les petites comme les grandes, on dirait.
Pourquoi vous dites ça, inspecteur? Ici, on n'a rien à se reprocher. Les filles sont en règle. Vous avez qu'à vérifier.
C'est toi qui as fait la fermeture tôt hier matin?
Qui d'autre, inspecteur?
Vers quelle heure?
Vers 2h du mat, comme toutes les nuits. Si vous croyez qu'on fait un métier facile...
Et les filles?
À part Julie, qui a passé la nuit avec un client... oui, j'étais seul à fermer. Même que j'ai eu du mal à faire décoller petit Louis, qui était rond comme une queue de pelle.
Et ton Mac?
J'ai pas de Mac.
Sébasto, c'est mon associé.
Comme c'est romantique. Alors, où est-ce qu'il était, Sébasto, à deux pompes du mat?
Monter se coucher, je pense.
Tu penses? Tu peux en témoigner?
Oui et non. J'ai pas vraiment fait attention, mais d'ordinaire, à deux plombes du mat, il est bel et bien au pieu. Feignant.
Hé, hey Julie, c'est Sébasto qui paye la tournée.
J'arrive.
Adèle veut faire diversion. Elle s'aperçoit que Julie est en train de servir l'assemblée gratis.
Julie, t'encaisses nip de nib, on dirait. Mais regardez-moi cette bande de filocheurs.
L'argent est un sujet de dispute incessante entre elle et Sébasto. Il faut dire qu'elle en connaît la valeur. Cet hôtel, c'est toute sa vie à Adèle.
Mais tu vas nous ruiner, et marot. Ils ont qu'à briser comme tout le monde, ces sacs à vin.
T'es pas obligé de trinquer avec nous, la daronne.
Oh mince alors. Le pognon, on dirait qu'il te brûle les osselets. Si c'est pas malheureux. Avec toi les affaires, c'est la dégringolade.
Alors, madame Adèle, je fais quoi, moi? Je les sers ou je les sers pas, les clients?
Vas-y, Julie. J'ai dit, c'est ma tournée et c'est moi, le patron.
Tu parles!
Voyant la tournure que prenait l'affaire, Bigorneau se dit qu'il avait juste le temps de rejoindre l'inspecteur Lafiloche pour faire le point. Il reviendrait en cours de soirée pour surprendre Julot. Julot qui n'avait pas encore fait son apparition.
Oh.
Entrez.
C'est moi, patron.
Alors? Ah,
pas grand-chose. La nouvelle commence à se répandre dans le quartier. On ne parle plus que de ça. J'ai convoqué la marquise demain à la morgue, vers 11h.
Ah? Tu crois qu'elle sait quelque chose? Bon, pourquoi pas après tout. T'es passé à l'hôtel Sébasto?
J'en viens et j'y retourne tout à l'heure. Ils font la brinque ce soir, c'est la fête à Sébasto. Julot devrait passer en cours de soirée.
Bon, de mon côté, je vais coincer ce vieux clochard de la butte. Je te retrouve ici en fin de soirée, disons vers minuit.
Entendu, commissaire.
L'hôtel Sébasto est un endroit parfait pour tisser des petites affaires bien louches et des mauvaises combines, sous le regard tolérant du patron. Derrière le bar, un escalier intérieur grimpe discrètement vers les chambres, loué quelques heures par des voyageurs parfois rupins ou par des michetons avides de chair fraîche. Ce soir, comme tous les soirs, les habitués sont là, et avec eux d'autres branques venues de nulle part à cause de l'anniversaire de Sébasto et de la tournée généreusement offerte. Agglutinés autour des tables de bois, il trinque à la santé du patron. L'inspecteur Bigorneau s'est installé un peu en retrait. Il n'a pas grande envie de se mêler à cette bande d'agités dont certains puent la sueur et l'urine, l'odeur forte des soifeurs brins de zinc.
Comme fille en carte, la maison présente la petite Julie, serveuse de son état, et même un peu plus, si on tente, entre les clients. Et la patronne!
Et Polo nous chante d'Aristide Bruant, Lini Potien.
Oh, si on aime bien Lini Potien,
aime bien. Nini Pochia.
Mais d'autres filles travaillent aussi par grande affluence et michetonnent occasionnellement. Entre justement l'une d'entre elles, qu'on appelle familièrement Nini, la régulière de Polyte, un apache craint et respecté.
Oh, quel temps le chien ! Je suis gelée.
Salut la compagnie. Je prendrais bien un petit remontant, moi aussi.
T'as déjà fini de bosser. Fais-moi la comptine.
Bonjour l'accueil, ça fait toujours plaisir. T'as vu le temps qu'il fait ? Y a que de la flanelle sur les trottoirs. Allons, Polyte, fais pas la gueule.
Ninite s'approche de Polyte, qui commence une partie de cartes avec trois autres clients, dont le fameux Jules, envoyé en mission de taupe par le commissaire Lafiloche. Nini se serre contre son homme, aguicheuse, et Polyte la laisse faire.
Nini, te bassine, pousse-toi un peu. Trois cartes.
Tiens, Nini, une cressonnée. Ça va te remonter.
Julo, qu'est-ce que t'attends pour allonger ton as ? Nom de Dieu ! Nini, dans un chien, tu dégages ou je t'en colle une ?
Ça va, Polyte, lâche-moi !
À la bonne heure.
Julie, une ondaf.
Tout de suite, inspecteur.
Mais je l'avais pas vu, celui-là. C'est Bigorno, le piroquet de la filoche. À la vôtre, inspecteur.
C'est drôlement bon.
Ton roi, Gilo, tu le poses, ton roi ?
Mais je l'ai pas, le roi.
Ah, le roi, c'est pour nous autres. Ah, et voilà le travail.
Nom de Dieu, Gilo, tu joues comme un naze.
Nini s'ennuie à siroter sa bière. Elle se rapproche de Polyte et tente un sujet de conversation. Entre-temps, l'inspecteur Bigorno s'est discrètement rapproché de leur table.
Dis, Polyte, tu voulais que j'apprenne le métier de la rue à une calèche toute neuve. Une amie de Jules. Elle est où, la donzelle ?
Ta gueule, Nini. Tu parles trop. Va me chercher un autre verre et laisse-nous taper tranquille.
Bon, bon, ne te fâche pas, moi, ce que j'en dis. Mais pourquoi un autre verre ? T'as même pas fini le premier.
Fais ce que je te dis. Va me chercher un autre verre.
Fais ce que te dit Polyte, Nini. On a à causer. Entre hommes.
Inspecteur.
Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au pantre, d'un coup de surin, il tomba le ventre. Rue Saint-Vincent.
Le commissaire Bigorno remplace et regarde Polyte droit dans les yeux. Polyte est en alerte. Sa conscience n'est jamais tranquille, et comme tous ceux de son espèce, il craint les Roussins. L'inspecteur Bigorno a sûrement une idée derrière la tête, et peut-être nourrit-il à son endroit quelques soupçons. Peut-être finira-t-il par découvrir qui est l'assassin de la jeune fille retrouvée morte, un couteau dans le ventre, rue des Abbesses. À cette idée, la page tant redoutée sur la butte sent un grand frisson de peur parcourir son échine. Soir du 3 février 1900, le commissaire Lafiloche, l'un des plus performants condés de la ville de Paris, mène l'enquête sur un crime commis la veille en pleine nuit, à l'angle de la rue des Abbesses et de la rue Lepic, sur la butte Montmartre. Bras droit du commissaire, l'inspecteur Bigorno enquête en ce moment à l'hôtel Sébasto, un bouge malfamé situé non loin du lieu du crime. L'ambiance y est à la fête en raison de l'anniversaire de Sébasto, le patron de l'hôtel. Le vin et la bière coulent à flot, aux frais de la princesse. Jules Tercier, l'indique du commissaire, est assis mal à l'aise en face de Polyte, le chef d'une bande de truands qui, justement, intéresse tout particulièrement l'inspecteur.
Pardon, désolé d'interrompre votre partie de cartes.
Et toujours un plaisir de trinquer avec les Condés. À la vôtre, inspecteur.
Alors, Polyte, tu fais pas les présentations?
C'est comme si c'était fait, inspecteur. Je vous présente Jules, dit Julot, arrivé fraîchement de Lyon et déjà brinzingue.
Ah, pas du tout. Je suis pas brinzingue.
T'énerve pas, Julot. C'était pour rire.
Arrivé de Lyon. Tiens, tiens.
L'inspecteur et Julot ne sont pas censés se connaître.
Un verre, inspecteur?
Non, merci. Dis-moi un peu, Polyte, où est-ce que tu traînais dans la soirée du 2-3 février?
Vous cherchez les poux, inspecteur?
Peut-être. Alors?
Je t'appelle carton chez Sébasto, comme d'hab. Plus tard, attendez que je me rappelle. Ah ouais, j'ai fait un saut chez Nini. Ça devait être minuit.
Minuit?
Vous savez, à cause des cloches.
À cause des cloches.
Vous savez, inspecteur, elle a des beaux nichons, Nini. Nini, viens donc montrer tes avantages à monsieur l'inspecteur.
Fais pas le malin, Polyte. On te tient à l'œil. Et ensuite, disons, le plomb du mat.
Bonjour, inspecteur.
Ça va, Nini, laisse-nous.
Oh, mais la barbe à la fin.
Ils sont très beaux, tes nichons, Nini. Mais je suis là pour une enquête. Alors?
Ouais, le sérieux de la rue des Abbesses. Tout le monde en parle par ici, pauvre gosse. Mais vous vous trompez, inspecteur, l'assassin, il n'est pas ici.
Ça va, Nini, dégage.
L'inspecteur Bigorneau reste songeur. Il est troublé par le charme de Nini. Devant elle, il se sent un peu gauche. Dommage qu'elle en pince pour cette brute de Polyte. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il soit tendre avec elle. Allez comprendre les femmes.
Vers deux pompes du mat, vous disiez, inspecteur?
Oui, c'est l'heure du crime.
Je dormais, dans les bras de Morphée. Pas vrai, Nini, qu'on a passé la nuit ensemble?
Et même jusqu'au petit matin, une fois n'est pas coutume. C'est fou comme à tes heures tu peux être gueule d'amour.
Ta gueule, Nini. Mais, inspecteur, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Vous pensez même pas que c'est moi qui ai soigné la donzelle?
Faut voir. Tu la connaissais?
Peut-être oui, peut-être non, allez savoir. Mais si elle traînait dans le quartier, je la connaissais de vue. Peut-être ben.
Eh ben, tu vas nous le dire. Et sous serment encore.
Oui, que je vous accompagne à la morgue.
Parfaitement. Et avec Nini encore. Vous viendrez tous les deux identifier le corps demain matin, à 11 plombes du mat. Et toi aussi, Sébasto, tu viendras avec Juliette à régulière, ainsi que le Lyonnais, Julot. Tous au clou des macabres. Messieurs, dames.
Un silence de mort souligne les mots de l'inspecteur. Jamais personne n'allait de gaieté de cœur reconnaître un cadavre.
Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant. Les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce. Rue Saint-Vincent.
Il est 13h, Sébasto derrière son comptoir, briques, verres et pichets quittent à les briser. C'est qu'il est nerveux, le patron. Il revient fraîchement de la morgue, tout comme Polyte, Nini et Julot. L'un après l'autre, ils avaient défilé devant le corps tout blanc de la jeune fille, et foi de Sébasto, ça lui avait retourné le cœur. Il avait été surpris aussi, un peu plus tard, de croiser la marquise qui sortait du séchoir. La petite morte de la rue des Abbesses n'était pas encore enterrée, et évidemment, ils la connaissaient tous. Allez savoir si quelqu'un avait vendu la mèche au Roussin. Le geste vif et tendu. Sébasto ne lâchait pas Polyte du regard. Il sentait insidieusement la peur monter en lui. Afin d'éviter de céder à la panique, il dit n'importe quoi à Adèle, sa compagne, pour donner le change.
À propos, la mère, ton barbouillon de mes fesses, il l'a aligné, sa douloureuse?
Tu veux parler du trio? Il nous a laissé ce joli tableau.
Une croûte, ouais. Un canard qui va recevoir mon pied au cul s'il ose franchir la porte. Il n'y a qu'à retourner chez sa mère, le salaud. Au bateau lavoir, avec les rapins. S'ils en veulent.
Ouais, t'as raison, Sébastien. Il faut pas se laisser faire par les gonzesses. Faut toujours qu'elles commandent, qu'elles commandent. C'est comme la mienne. Hip. Elle s'envahit en l'air avec le premier venu. Et tout le monde le sait. Ah, elle pourrait au moins leur ratisser un peu de pognon. Mais... Tandis que toi, Sébastien, t'as toujours su faire avec les femmes, hein. Je me souviens la fois quand tu...
Ta gueule, petit Louis.
On t'a pas sonné, petit Louis.
Police.
Tout le monde reste tranquille. C'est le moment de lâcher les dés.
Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Il y a des gens honnêtes ici.
Eh, mais c'est la crime presque au complet. Que nouveau cet honneur, commissaire Lafiloche?
Reste tranquille, Polyte, je t'en prie.
En personne, Polyte, en effet. Tiens-t'en donc au conseil de Nini et reste à carreau. Jules Tercier, suivez-nous.
La tension était montée d'un cran. Sur l'invitation un peu surprenante du commissaire, Julot s'est élevé.
J'ai rien fait!
Eh ben, tu nous raconteras tout ça au commissariat. En route!
Jules avait atterri au placard et il y était resté juste assez longtemps pour n'en plus pouvoir de rester enfermé comme un canari dans sa cage. L'inspecteur Bigorneau l'introduisit enfin dans la chambrette faisant office de bureau au commissaire Lafiloche. S'y trouvaient Amélie Vasseur, la propriétaire de l'immeuble, petite amie du commissaire, qui traquait méticuleusement quelques grains de poussière restés collés sur les meubles vernis du bureau. Elle leur jeta un regard noir et évocateur.
Mais ça ne serait pas Julot que vous agrafez comme ça, inspecteur? Si ce n'est pas malheureux! Le pauvre, il n'a plus un poil sec.
T'avances, Julot, ou je t'en colle une.
Mais lâchez-le un peu, voyons, il ne va pas vous filer entre les doigts. Oh, saucissonné comme il est.
T'occupe pas, Amélie, c'est pas tes oignons. Il est sorti, le commissaire?
Mais ça ne se voit pas, non.
Ouais, pas pour longtemps. Assieds-toi, Julot, on va attendre le commissaire.
Oh, vous m'amenez de la crassouille partout, le plancher est tout crotté. Mais c'est pas vrai, ça.
Bon débarras.
Pourquoi vous m'agrafez, inspecteur? J'ai rien fait.
La ferme, Blanc-Bec, ou je vais te river ton clou, marot.
À nous deux, Julot.
Elle avait, sous sa toque de marbre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent.
Retour à l'hôtel Sébasto où le silence fait place peu à peu aux murmures, puis aux rires et les conversations reprennent. Julot s'est fait arrêter. La belle affaire, on le relâcherait bien. À moins qu'il y soit pour quelque chose dans le meurtre de la demoiselle. Polyte a repris ses esprits. D'ailleurs, il n'est pas là par hasard. Il vient voir Sébasto. Il attend le bon moment pour converser discrètement, sans témoin. Il est minuit. Le café est presque désert. Restent les soifeurs que l'alcool a rendus bruyants ou larmoyants, c'est selon. Polyte vient s'attabler au bar, derrière lequel s'affole le patron du bistrot.
Tu vois ce qui me plairait, Sébasto. C'est un crapoulos, pour accompagner mon verre de bière.
Tu veux un crapoulos, un cigare?
L'un ou l'autre. Et puis non. Viens t'asseoir, Sébasto, si on causait un peu. T'as la marchandise?
Les temps sont durs, les arrivages se font attendre.
C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse, mon salaud?
Non, attends, j'ai mis Jules sur l'affaire.
Jules? Ben voyons, ah Jules. Ah ben, c'est la meilleure.
Il est jeune, d'accord, mais c'est un dur. Un mec qui a pas le foie blanc, pour sûr. Le moment venu,
C'est lui qui prendra contact avec moi. Après le sérieux de l'autre nuit, la rousse est sur les dents. Il faut attendre un peu. J'ai pas envie de me mettre dans le pétrin, moi.
À l'heure qu'il est, il est en train de moisir au lardu, ton Julot. Et tu le sais aussi bien que moi.
Vous pensez qu'il le sait, la filoche, que la petite morte, c'était sa régulière à Julot?
On t'a sonné, Nini.
À vous de voir.
Et si Nini avait raison? T'as balancé ce bastot, à vous.
Arrête, Polyque, j'ai rien dit, je te jure.
Je donne pas cher de sa peau à ton Jules. As-tu choisi bien tes gourbis?
T'échauffe pas. Ils ont pas de preuves, les condés. Et Rose, elle avait pas de famille pour la réclamer.
Et si Jules déballait ses outils, hein?
C'est pas son genre. J'ai l'affaire en main, je te dis, Polyte. C'est juste une question de temps, de jours.
Nom de Dieu. Et c'est Jules qui est sur cette affaire-là. La camelote, j'avais jeudi soir, t'as pigé? Et le daron, s'il perd du pognon par ta faute, je donnerai pas cher de ta peau. Si tu veux pas qu'on repêche ta carcasse au fond de la Seine.
Polyte se lève et sort sans saluer personne. Il ouvre la porte et ne la referme pas, laissant le vent s'engouffrer dans le café. Ses pas résonnent sur les pavés mouillés. Sa haute silhouette descend rapidement la rue des Saules pour disparaître à l'angle de la rue Saint-Vincent.
Au fait, qu'est-ce qu'il te voulait, Polyte?
Toi, la mère, retourne à tes comptes. Et toi, Julie, qu'est-ce que t'attends pour aller faire dégorger les michetons et de leur y faire cracher leur braise?
Te fâche pas, Sébasto. Elle s'en tire bien, la petite Julie. Même le gène, il l'a, la bonne. Il est radin avec ses trimards. Avec Julie, c'est autre chose.
Ouais. N'empêche que le gène, il change de chemise moins souvent que de commis. C'est vrai, quoi. Le savon, c'est parfait pour les chiens.
Dehors, la pluie s'est un peu calmée. Dans la nuit, un ivrogne tapi derrière le café n'a rien perdu de la scène. Il semble se détendre tout soudain, sort un mégot de son vaste manteau crasseux, fait craquer une allumette qui crève l'obscurité glacée. Avec un sourire au coin des lèvres, il prend son temps et tire tranquillement une longue bouffée. Le bureau du commissaire Lafiloche a été briqué par Amélie et transformé en tribunal pour l'occasion, car cet après-midi est prévue une confrontation des suspects qui devrait révéler enfin la vérité sur l'affaire du crime de la rue des Abbesses. Les rembroqueurs sont serrés sur un vieux banc face au bureau du commissaire transformé en tribunal. Derrière eux, le fidèle inspecteur Bigorgno affiche un sourire discret. La filoche, très à l'aise, trône à côté du préfet. Il feuillette un dossier dont les écritures semblent curieusement avoir reçu la pluie. Deux inspecteurs de la grande maison surveillent l'entrée de la pièce comme l'exige la loi. Un greffier chargé du rapport installe laborieusement une machine à écrire au rouage quelque peu rouillé. On se croirait à la foire. Chaque personne présente y allant de ses commentaires et autres rouspétances. Parmi les suspects, Sébasto, Adèle, Nini, Polyte et Julie, mais aussi la marquise et son ami le clochard, la mémoire, que l'inspecteur Bigorgno avait dû saucissonner, on aurait dit un lièvre pris dans un filet.
Et ma rendons grâce, la marquise.
Elle tient, il montre les 13 marches, potien.
Vieille taupe, je vais t'arracher les yeux, grognasse. Bois ta vérole, paillasse.
Du calme, mesdames, s'il vous plaît.
Vieille peau.
La ferme, Nini.
Jules est effondré, épuisé par une longue nuit d'interrogatoire. Il se tient prostré sur un siège, légèrement en retrait des autres, juste devant les deux gendarmes en faction à l'encadrement de la porte. On l'accuse du meurtre de sa petite amie. Il risque la peine de mort. Le commissaire Lafiloche est rasé de frais. Son humeur semble légère.
Ouais.
Ah non, mais bien sûr.
Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Commissaire Lafiloche, votre rapport, s'il vous plaît.
Oui, monsieur le préfet. Montmartre, 3 février 1900. Le corps d'une jeune femme a été retrouvé tôt le matin, il était 3 heures environ, à l'angle de la rue Lepic et de la rue des Abbesses. Il gisait sur les marches de l'escalier qui descend vers la cave de la mère Roussel, blanchisseuse de son état. La victime avait le ventre transpercé d'un coup de poignard. Le corps a été reconnu par plusieurs personnes, toutes fréquentant l'hôtel Sébasto, situé rue Yvonne Letac, et tenu par Adèle et Sébasto, ici présents. Une partie des personnes que nous avons convoquées comme témoins ont avoué connaître la victime pour l'avoir croisée une fois ou l'autre dans le quartier de Montmartre ou même à l'hôtel Sébasto. Les autres ont affirmé ne l'avoir jamais vue ou ne pas s'en rappeler.
Silence ! Silence ! Reprenez, commissaire.
La jeune victime s'appelle Rose Roulin. Elle était la fiancée de Jules Tercier, ici présent, fraîchement arrivé de Lyon et client régulier de l'hôtel Sébasto.
Je l'indique, le mouchard des Roussins.
Reste assise, la mère.
Sale balance, mangeur de galettes.
Mon salaud, je te crèverai. Restez tranquille.
Silence, ou je fais évacuer la salle. Reprenez, commissaire.
Celle que j'appellerai pour simplifier la marquise avait croisé Rose Roulin qui montait la rue Lepic ce 2 février vers 18h. Il faisait très froid et il pleuvait. Rose Roulin était blanchisseuse et sortait de son travail. Elle avait, semble-t-il, rendez-vous à l'hôtel Sébasto avec Jules Tercier.
Vous confirmez, Jules Tercier ?
Oui, c'était ma régulière.
Julie, la serveuse de l'hôtel Sébasto, témoigne l'avoir vue entrer vers 19h. C'était l'heure de l'apéro et il y avait du monde. Mais Jules n'était pas encore arrivé.
Vous confirmez, Julie Collin ?
Je vais perdre ma place.
Vous confirmez ?
Oui.
Celle qu'on appelle Nini Potchien était présente selon Julie. Voulez-vous vous lever, Annie Martel ? Vous vivez rue Saint-Vincent avec un certain Polyte Simonin.
Ouais, c'est mon mec.
Annie Martel, vous connaissiez la victime, Rose Roulin ?
Pas vraiment. Rose, c'était une calaise, une gonzesse qui prenait ses grands airs, vous voyez le genre. Une drôle de gonzesse.
Rose était la fiancée de Jules.
Ce qui lui plaisait à Jules, c'était le pognon. Il voulait s'en mettre plein les poches, comme les autres. Vous avez pas quelque chose à boire? Il fait drôlement chaud dans ce tribunal. J'ai soif.
Cesse ton cirque, Nini. Rose était sa casserole.
Ouais, enfin... non, elle voulait pas bâcher, il y avait rien à faire. Et dans la bande, tout le monde se payait la poire de Gilo.
Polyte aussi.
Ah, Polyte. Polyte m'avait demandé de lui apprendre le métier de la rue, mais Rose voulait rien entendre. Maintenant, c'est trop tard, ce qui
Bon, asseyez-vous.
Tu peux te rasseoir, Nini.
Ensuite, commissaire.
Polyte a mauvaise réputation dans le quartier. Nous avons cru, l'inspecteur Bigorneau et moi, que suivre sa piste nous dévoilerait l'assassin de Rose Roulin.
Poursuivez.
L'enquête nous a mené à une sombre histoire de contrebande dans laquelle est impliqué le patron de l'hôtel Sébasto, Sébastien François. Monsieur le préfet, j'aimerais lui poser quelques questions.
Levez-vous, Sébastien François. Vous êtes propriétaire avec votre compagne Adèle Métain du cabaret Hôtel Sébasto, situé sur la butte Montmartre?
Oui, monsieur le préfet. Ça fait bientôt 5 ans que je me suis offert ce petit bistrot. J'ai mis toutes mes économies.
C'est ta femme, tu veux dire? Du pognon qu'elle a gagné avec ses fesses.
Ça, tu vas me le payer, la marquise.
Aïe, lâche-moi. Aïe. Mais tu vas me lâcher, vieille peau. Allez, lâche-moi.
Silence, mesdames. Silence, enfin. Ou je vous fais évacuer. Commissaire, posez vos questions.
Sébasto François, j'ai l'impression que tu t'es fourré dans le sale drap avec ton ami Polyte. De quoi fermer ton joli caboulot. Tu vas répondre à mes questions.
Je suis blanc comme neige, commissaire. Vous me connaissez.
Mais peut-être que cela va s'arranger si tu nous dis la vérité. Dis-moi un peu, Sébasto, sais-tu si Jules est coupable du meurtre de son amie Rose?
Nini vous l'a expliqué. Julot n'arrivait pas à convaincre Rose d'aller au Turbin. Il était la risée de la bande Apolite, mais...
Et Jules devait faire ses preuves. Pas vrai? Pour être admis comme apache dans la bande.
Chez les Roussins, il avait déjà sa place au chaud.
Le salaud!
Taisez-vous!
Jules a donc tué Rose pour...
Pour prouver qu'il n'avait pas les foies blancs. Oui, commissaire, il a tué la petite Rose d'un coup de surin.
C'est pas ma faute. Je voulais pas la tuer. Rose.
Jules fut traduit devant la cour de justice, condamné à être guillotiné à la prison de la Roquette. Personne ne le regretta. On ne regrette pas les indiques ni les assassins. Une chanson d'Aristide Bruant raconte cette histoire d'amour qui finit si mal, comme celle qui entre habituellement dans la légende.
On n'avait pas connu son père, on n'avait plus de mère, et depuis 1900, on mourait chez sa vieille aïeule, ou qu'à s'élever comme ça, toute seule. Oui, ça va.
C'était les enquêtes du commissaire Lafiloche. Aujourd'hui, le meurtre de la rue des Abbesses, une pièce radiophonique de Dominique Berchi, avec, dans le rôle du narrateur, Claude Prélot, la mémoire, Marco Pelli, la marquise, Simone Emery, le commissaire Lafiloche, Gilbert Rigotti, l'inspecteur Bigorgno, Pierre Bassoli, Adèle, Dominique Hulcu, Sébasto, Olivier Bravant, Julie, Gloria Jiménez, Nini, Dominique Berchi, Polite, Bernard Bachton, Jules, Nicolas Levet, un client, Raoul Hiersin, le préfet de police, Gaston Lozère, et Amélie Vasseur, Martine Degli-Agosti. Mise en onde, Nicolas Levet, prise de son, Henri Scherrer. Montage, Pierre Bassoli.
Près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce, aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au pantre, d'un coup de surin, il tomba le ventre. Rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant. Les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce. Rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de marbre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent.